Concerne l'islam et le rapport avec sa tradition, il est sûr que dans la situation actuelle, c'est, je dirais, le rapport le plus figé, le plus conventionnel, si nous avons à le comparer aux approches qui peuvent être faites au sein du christianisme ou du judaïsme. Mais les tentatives, les essais, les méthodes critiques n'ont pas manqué quand à l'approche de l'islam à notre époque, et pas seulement dans la tradition orientaliste. Un de ceux qui ont mené ce travail depuis, je dirais, quelques décennies est Mohamed Al-Koun, qui est notre invité de ce soir. Bonsoir, Mohamed Al-Koun.
Bonsoir.
Vous êtes professeur émérite de la Sorbonne Nouvelle. Vous avez mené toute votre carrière en Sorbonne.
En Sorbonne, oui.
Vous avez commencé très très tôt,
et aussi,
je crois,
quand même dans d'autres universités à travers le monde où j'ai été visiting professor, en particulier aux États-Unis, en Angleterre, en Belgique.
En Hollande.
En Hollande, oui, en Hollande, 3 ans. Oui.
Et maintenant, depuis que vous êtes libéré de votre poste,
oui,
l'activité à l'étranger devient centrale,
plus intense, oui.
Surtout dans le monde anglo-saxon.
Oui, oui, et surtout aux États-Unis. Actuellement, je suis conseiller scientifique à la librairie du Congrès, qui est un lieu merveilleux pour la vie intellectuelle et la vie de la recherche, et qui est aussi un lieu de contact avec la tête des États-Unis, c'est-à-dire le Congrès.
Et je crois que vous avez été même consulté par les sénateurs suite
aux
derniers événements,
exact,
au 11 septembre. Il y a eu une consultation technique de votre part.
Oui, oui, exactement. Nous avons parlé des problèmes de la pensée islamique aujourd'hui. Comment cette pensée réfléchit sur tous les défis de l'histoire que connaissent toutes les sociétés contemporaines, mais tout particulièrement les sociétés qui se réfèrent à l'islam comme modèle de production de notre histoire contemporaine. Le seul fait de dire ceci pose d'énormes problèmes, parce que se référer à un modèle islamique, celui institué au début du 7e siècle à Médine, pour le reproduire aujourd'hui dans notre environnement scientifique, culturel, politique, juridique, ça pose d'énormes problèmes. Parce que cela postule ou une connaissance historique réelle de ce qui a pu se passer à Médine entre 610 et 632, ce que nous n'avons pas du tout. Nous avons des études, nous avons des recherches, mais elles ne garantissent absolument pas une connaissance suffisante pour que nous puissions nous référer à un modèle établi. Ou bien il y a l'autre voie que les sociétés musulmanes sont en train de suivre, au moins depuis l'irruption de ce qu'on a appelé la révolution islamique avec Khomeini.
Mais dès avant, le phénomène a commencé, disons, vers 1930 à peu près.
Ah oui, ça c'est le mouvement des frères musulmans.
Des frères
Mais
musulmans.
Ce mouvement des frères musulmans
a abouti...
Oui, il a grandi, disons. Il a connu une expansion, mais une expansion de type idéologique.
Ce qu'on pourrait
pas
appeler...
Pas une expansion ni spirituelle au sens religieux, ni encore moins intellectuelle au sens d'une réflexion et d'une approche fondée sur à la fois la connaissance scientifique et une réflexion sur cette connaissance.
Et vous vous insurgez, bien sûr, à raison, face à cette émergence de tous ceux qui, actuellement, en islam, s'autorisent pour procéder à l'exégèse sauvage.
Oui, oui.
Ou même, je dirais, les critères de l'autorité tels qu'établis par la tradition sautent. Et dans l'ouvrage collectif qui a pour titre « Christianisme, judaïsme et islam, fidélité et ouverture », publié aux éditions du CERF et qui reproduit les actes d'un colloque.
Oui, ça a été dirigé par Monseigneur Doré, qui est actuellement archevêque à Strasbourg.
Et là, votre intervention est extrêmement importante. Avant d'en venir à l'intervention scientifique, entre guillemets, qui est la vôtre, vous faites une improvisation, mais écrite évidemment par la suite, actualisante.
Oui.
Et vous vous référez directement, parce que là vous êtes
à tout point de vue, je dirais, concerné, à la fois en tant qu'islamologue, en tant que musulman, et en tant qu'Algérien, du Djourdjoura,
oui.
C'est-à-dire là où a eu lieu les funestes et atroces crimes menés par le GIA. Oui. Et vous soulevez alors là très très précisément le problème, comment oui. ces crimes, et notamment ces crimes contre des chrétiens et les moines chrétiens,
surtout, et surtout des moines,
comment ils se sont autorisés, ces criminels, du verset 29 de la sourate 9,
exact.
Pour accomplir
pour
leur
crime. Accomplir cette horreur.
Alors, oui. ce verset, votre réponse.
L'histoire de l'Algérie, depuis 1954, que j'ai vécu intensément, j'étais étudiant lorsque la guerre d'Algérie avait éclaté, et j'ai donc participé à cette page d'histoire. Ensuite, l'indépendance, c'est ce qui a été fait durant l'indépendance, de 1962 jusqu'à maintenant, m'ont amené à introduire une autre approche de l'islam que j'appelle l'islamologie appliquée. C'est-à-dire qu'il arrive un événement comme celui-là. Les journaux nous annoncent que six moines de Tibhirène, qui vivaient à Tibhirène en Algérie depuis très longtemps, dans la paix et dans la communication avec la population locale, ont été égorgés. C'est une nouvelle terrible. Terrible pour quelqu'un qui réfléchit d'abord au rapport avec notre propre culture et nos rapports avec cette religion que tout le monde mobilise. Comment réagir en tant que historien de la pensée islamique? Et un historien qui appartient, comme vous l'avez dit, à l'Algérie, où s'est déroulé l'événement, comment réagit ?
Même à votre berceau, votre enfance,
oui,
est là.
Exactement,
vous
oui,
vous rendez fait. Hommage à vos maîtres chrétiens qui vous ont formé.
Oui, oui. Donc, j'ai été amené à faire cette réflexion et à prendre ce verset 29. Et c'est un verset où il est question des rapports avec les Ahl al-Kitab.
Les gens du livre. Donc.
Les gens du livre, c'est-à-dire les juifs.
Concept auquel vous attachez une très grande importance, d'ailleurs.
Oui, tout à fait, oui. Dans ce verset-là, les Ahl al-Kitab sont soumis à un impôt de capitation qui va rester durant tout le Moyen-Âge et qui va être appliqué par le droit musulman aux juifs et aux chrétiens avec le statut que l'on appelle de dhimmi, c'est-à-dire
protégé.
De protection juridique des confessions juives et chrétiennes sous l'autorité d'un État musulman. Donc, bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire qui s'est passée au sujet de la dhimmitude qui redevient d'actualité, parce qu'on écrit sur la dhimmitude, les juifs en particulier rediscutent cette question dans le contexte actuel des combats Israël, Palestine, etc. Donc il y a toutes sortes de ramifications extrêmement actuelles de quelque chose qui est extrêmement ancien. Et notre drame, c'est que nous ne savons pas lire des textes très anciens pour les resituer dans la culture, la psychologie sociale, la mémoire, non pas historique, mais la mémoire mythique, car il n'y a que la mémoire mythique qui pouvait fonctionner, non seulement dans la société arabe de ce temps-là, mais dans toutes les sociétés du monde. Et ici, la notion de mémoire mythique est extrêmement importante pour lire justement ces textes, alors que ceux qui sollicitent aujourd'hui ces textes pour légitimer un acte comme celui-là lisent ces textes au tout premier degré. Il nous faut aujourd'hui, lorsque nous parlons des religions, chrétiennes, musulmanes, hindouistes, bouddhistes, de ces choses très lointaines, nous devons d'abord nous armer d'une différenciation très nette entre le fonctionnement de l'esprit humain dans le cadre d'une culture mythique et son fonctionnement dans le cadre d'une culture historique critique qui est une acquisition récente de la connaissance, je dirais depuis le 18e, 19e siècle en Europe, mais pas ailleurs.
Celle d'un djihad, guerre sainte, toujours présenté depuis la même sourate 9 comme la violence nécessaire, salvatrice, sacralisante, imposée par un adversaire qualifié d'ennemi de Dieu, sourd et ingrat devant la dette de sens contractée par tous les hommes auprès de lui. Oui. C'est une lecture terrible et justement décontextualisante.
Exactement. Alors, il s'agit de réfléchir sur ce terme djihad qui fait fureur depuis, moi je dirais, depuis la guerre d'Algérie, parce que les Fellaga, comme on les appelait en ce temps-là, d'un côté, étaient vus comme des fidèles du djihad qui pratiquent la guerre sainte contre l'infidèle européen. C'est-à-dire que cette perception de l'islam n'est pas liée à l'événement du 11 septembre. C'est une perception ancienne. Et même au Moyen-Âge, déjà, avec les croisades, cela se faisait. Mais ce que l'on appelle djihad du côté de l'islam, c'est ce qu'on appelle la guerre juste en termes de théologie chrétienne lorsque les chrétiens entreprenaient les croisades. Et le concept théologique de guerre juste a été théorisé par un de nos ancêtres, Saint Augustin, en Afrique. Car l'Afrique, et cette même Algérie dont nous parlons, a été chrétienne, catholique. Et Saint Augustin, le grand Saint Augustin, a enseigné le catholicisme. Et avec sa très grande ouverture et sa puissance d'analyse, et il a parlé de guerre, et de guerre juste vis-à-vis, en ce temps-là, des infidèles qui ne pouvaient pas, évidemment, entrer d'emblée dans la bonne nouvelle qu'annonçait l'Évangile. Je dis cela, je rappelle cela, pour nous sortir, nous délivrer de cette projection sur l'islam d'un djihad offensif qui serait particulier à l'islam, qui serait un enseignement spécifique, consubstantiel à l'islam comme religion, comme me l'ont dit la plupart des journalistes qui m'ont souvent interrogé.
Nous savons qu'historiquement, évidemment, il y a l'équivalent du djihad dans la tradition chrétienne. Le seul problème, c'est que maintenant, avec tous les mouvements extrémistes qui se réclament de l'islam, jusqu'à ceux qui ont mené l'attentat suicidaire du 11 septembre, restaure, je dirais, ce concept médiéval.
Oui, alors justement, nous ne devons pas nous enfermer dans un Moyen-Âge chronologique. C'est pour cela que je transfère la problématique du djihad et de la guerre juste, car pour les musulmans, le djihad, c'est la guerre juste, exactement comme pour les chrétiens. Chacun voit sa vérité et défend sa vérité et justifie les entreprises guerrières par cette vérité, justement. Alors, je transfère les deux concepts, guerre juste ou djihad en arabe, vers ce que j'appelle un triangle anthropologique. Ce triangle anthropologique, c'est la violence, le sacré et la vérité.
Vous extrayez ce triangle, encore une fois,
de l'analyse,
de ce verset 29 de la sourate 9.
Non, pas seulement ce verset n'est pas isolé. Il y a plusieurs versets qui traitent du djihad dans le Coran et qui traitent explicitement du djihad. On n'a pas le temps de détailler l'ensemble des versets et comment il y a une progression dans la définition du djihad dans le Coran. Et je rappelle que cette sourate dont nous parlons, la sourate 9, est la dernière qui a été révélée, car il y a un ordre chronologique des versets coraniques.
Mais vous rappelez très souvent dans les commentaires que vous faites, que vous établissez sur le Coran, d'une science traditionnelle,
oui,
qu'on appelle les raisons de la descente,
oui,
c'est-à-dire
Asbab nuzul,
les contextes même,
oui,
les circonstances de la révélation. Ce qui semble de nos jours être balayé par l'oubli chez ceux-là même qui sont d'accès sauvage à la lettre.
Exactement, c'est pour cela que je parle d'exégèse sauvage que n'importe qui peut venir improviser et appliquer par des actes qui peuvent être aussi horribles que ceux, maintenant, on peut parler au pluriel, qui ont été perpétrés un peu partout.
D'Algérie jusqu'à Manhattan.
Exactement, d'Algérie jusqu'à Manhattan, mais aussi en Iran, au Pakistan, un peu partout. Le terrorisme existe dans les pays musulmans eux-mêmes et ne s'attaque pas toujours aux pays occidentaux, comme on le laisse croire, là aussi.
Donc, la démarche qui est la vôtre en tant que savant, en tant qu'érudit, où vous cherchez à, par exemple, réfléchir, à mettre en perspective, pour le croyant que vous êtes, la nécessité d'historiciser la constitution, par exemple, des traditions prophétiques en islam.
Oui.
Le fait même aussi de distinguer entre ce que vous appelez le Coran établi en texte par un État, c'est une décision d'État,
oui.
Vous en faites la démonstration, et le texte révélation et qui crée ce rapport direct entre
oui.
Dieu et le prophète par l'intermédiaire de l'ange. C'est-à-dire ce passage de l'oral à l'écrit, tous ces phénomènes d'historicisation
oui.
qui sont nécessaires pour vous en
oui.
tant que savant, ont lien en quelque sorte avec le combat contre cette nouvelle idéologie au nom de l'islam.
Oui. Alors, vous venez de dire que je suis croyant, il faut dire plutôt que je problématise la croyance, c'est-à-dire je rends la croyance religieuse problématique, c'est-à-dire qu'elle doit se poser, elle est obligée de se poser des problèmes pour montrer en quoi, aujourd'hui, on peut continuer à croire dans le caractère normatif des versets du Coran, mais aussi des textes bibliques, des textes évangéliques, des textes bouddhistes, des textes hindouistes, etc. Autrement dit, je travaille sur le fait religieux. Je ne travaille pas uniquement sur la tradition islamique. Je prends la tradition islamique comme exemple, parce que je suis spécialiste de l'islam, et bien entendu, j'appartiens aussi à l'histoire des sociétés où l'islam a nourri le développement historique de ces sociétés, mais je le fais en ouvrant des perspectives qui ne s'ouvrent pas encore, surtout dans l'enseignement que les sociétés musulmanes donnent de l'islam, ouvrir les perspectives sur ce que aujourd'hui peut signifier une religion, quelle que soit cette religion, mais en particulier l'islam, parce que l'islam est passé aux politiques, parce que l'islam lance des défis d'ordre politique. Il ne se contente pas de s'exprimer pour le privé de la personne, car la croyance est quelque chose de privé.
Mohamed Harkoun, vous avez parlé à l'instant de cette dimension politique de l'islam. Évidemment, c'est devenu un stéréotype, et un stéréotype qui personnellement me révolte,
puissant,
où on dit que c'est dans la fatalité même de l'islam, cette consubstantialité du politique et du religieux.
Je voudrais revenir à la formule que j'ai introduite, mais que je n'ai pas suffisamment expliquée. J'ai dit que le triangle anthropologique violence sacrée et vérité est extrêmement important pour expliquer ce qui se passe. Non seulement dans les religions traditionnelles qui ont enseigné aux fidèles une conception exclusiviste de la vérité, en ce sens que chaque religion revendique le monopole de la vérité donnée par Dieu, et par là exclut les autres formulations de la vérité. Et c'est ainsi que les juifs ont été exclus par les chrétiens lorsque le christianisme a réussi dans l'histoire, et il a fallu attendre Vatican II en 1965 pour que l'Église catholique révise sa théologie au sujet de la place des juifs dans l'histoire de la révélation faite à Moïse auparavant et continuée par un juif, Jésus. Eh bien, l'islam a fait la même chose. Et
malgré une reconnaissance,
cette notion de vérité monopolisée,
malgré une reconnaissance relative quand même,
oui,
en islam.
Oui, mais quand même, Dinul Haqq est une expression utilisée dans le Coran.
La religion de la vérité,
la
vérité ultime.
De la vérité, et qui est unique, qui ne peut pas être partagée. Elle est celle que définit le Coran. De la même façon, les chrétiens, les juifs, etc., vont dire la même chose. C'est pour cela que je relis la violence qui commande l'histoire des sociétés à cette notion-là de vérité. Et c'est la modernité qui va venir corriger cette définition rigide, monolithique, exclusiviste de la vérité. Mais nous constatons que les enseignements de la modernité, qui relativisent la notion de vérité et qui nous enseignent l'existence de vérités plurielles qui se manifestent de diverses façons dans des cultures et des trajectoires historiques humaines très différentes. Il semble que cet enseignement de la modernité ait échoué, puisque nous constatons que la conception monolithique de la vérité continue d'engendrer une violence dans les sociétés, et une violence qui divise les sociétés elles-mêmes, comme par exemple ce qui se passe en Algérie dans la seconde guerre civile, celle que nous vivons depuis 1991, et elle se dirige aussi contre d'autres sociétés qui continuent d'être perçues comme des sociétés d'infidèles qui sont hostiles à cette vérité révélée par Dieu. C'est ce lien entre la perception de la vérité que définit le théologien, mais que définit aussi l'idéologie moderne. Lorsque les soldats français en 1914 mouraient avec gloire, un sentiment de gloire, un sentiment d'accéder à un honneur extrême, mourir pour sa patrie est un si digne sort qu'on briguerait en foule une si belle mort, écrivait Corneille, en relation avec la définition de l'amour de la patrie sous les Romains, mais continuée dans une culture laïcisée. Alors nous voyons que la notion de violence, la notion de guerre juste, liée à la notion de vérité, sacralisée, d'où le sacré qui est au milieu des deux, du triangle, violence, sacré, vérité. La guerre sainte que je mène, la guerre juste que je mène, est une guerre sacrée. Elle est sacrée parce qu'elle est au service de la vérité donnée par Dieu à tous les hommes à travers moi, qui la porte et qui ai reçu la responsabilité de la porter, du fait que moi je me suis converti à l'islam avant les autres, au judaïsme avant les autres, au christianisme avant les autres, et il m'appartient. C'est ainsi que fonctionne le triangle jusqu'à maintenant, malgré l'intervention, je le répète, de la modernité. Voilà pourquoi dans la modernité aussi le triangle fonctionne.
Mais disons, malgré tout, d'une manière, je dirais, plus modérée, le problème que nous avons actuellement est, disons, bien plus aigu en islam, en raison probablement de la non-émergence, justement, oui, de la pensée critique. C'est, oui, le moins qu'on puisse dire.
Exactement, exactement. Il faut expliquer pourquoi cette virulence du triangle que je viens d'expliquer de la part de l'islam...
Son exacerbation.
Oui, mais nous trouvons la même virulence de la part de l'hindouisme, où Gandhi, quand même, nous a enseigné...
Là aussi, nous avons un étonnant mythe de pacifisme.
Oui, oui, exactement, le mythe de la
face à une religion
Gandhi,
qui peut avoir une immense violence politique, comme c'est le cas de nos jours.
Il y a aussi une dérive due aux mêmes raisons historiques, aux mêmes facteurs historiques, qui ont fait que l'islam dérive idéologiquement. Il dérive dans le fantasmatique et pas seulement dans le mythologique.
Alors,
pas seulement dans l'idéologique.
Mohamed Harkoun.
Et ça, il faut l'expliquer, mais pour l'expliquer, il faut plusieurs émissions de ce type. Je parle avec trop de rapidité.
C'est vrai.
Et je suis sûr que les auditeurs ne suivent pas tout à fait le fil que je voudrais qu'ils tiennent de leurs mains, si je puis dire.
C'est vrai qu'on voudrait développer, mais au moins, puisque nous arrivons, là, nous parvenons au terme de l'émission.
Et malheureusement, oui,
tu vois, Mohamed Harkoun, vous voyez ce qu'il nous faut, c'est peut-être un indice, je dirais, d'explication pour cette exacerbation de la violence en islam.
Oui, l'indice rapide, c'est celui-ci. Jusqu'en 1945, la totalité du monde musulman, de l'Indonésie jusqu'au Maroc, de la Tchétchénie qui fait parler d'elle jusqu'à l'Afrique du Sud, car l'islam est partout présent sur la planète. Depuis 1945, il y a eu émergence d'États après les indépendances. Ces États-là n'ont aucune espèce de référence historique à un État antécédent. Pas seulement parce que l'occupant colonial ou colonialiste l'a éliminé, comme on nous dit, mais parce que l'État islamique, pour le retrouver, faut remonter au califat, ou bien à l'Empire ottoman, au sultan ottoman. Mais ces modèles politiques de l'État sont rendus obsolètes par la modernité. La modernité est là, depuis le XVIIIe siècle. Les démocraties sont là sous nos yeux, elles fonctionnent sous nos yeux. Alors il y a le problème de l'État, le problème du politique, que les musulmans n'ont pas géré jusqu'à présent. Ni les musulmans sécularisés, ni les musulmans qui se réfèrent, comme on l'a dit au début, au modèle islamique de Médine, au temps du prophète.
Mohamed
Et donc il y a une crise totale de la pensée politique à laquelle il faut ajouter les multiples crises, comme la crise sociale provoquée par la démographie et le manque de ressources économiques pour prendre en charge une démographie inédite dans l'histoire des sociétés. Alors, grosso modo, c'est tout cela qu'il faut analyser de plus près et quitter, par conséquent, ce fantôme de la religion qui serait la source de tous les maux et de toutes les exactions et de tous les fanatismes. Il faut élargir l'analyse et regarder ailleurs et rechercher ailleurs méthodiquement les explications à ce qui nous arrive.
Merci Mohamed Harkoun. C'était Culture d'Islam d'Abdelwahab Meddeb, technique Christian Fontaine, réalisation Olivier Coppin.